tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G, 101.5 FM, radio-g.fr et même DAB+. Aujourd'hui, deuxième épisode de Rencontre avec François. Bonjour François.
Bonjour.
Comment ça va ?
Pas trop mal.
Merci d'avoir accepté de venir sur Radio G aujourd'hui dans Rencontre. Alors François, tu es venu nous parler d'un sport, le plum foot, dont tu es un ancien champion de France et désormais entraîneur, si je
me trompe. Oui, tout à fait.
Mais avant de nous présenter le plum foot, je te laisse nous présenter le lieu dans lequel nous nous trouvons.
Alors, tout simplement, on est chez moi.
Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
Parce que je suis un gros flemmard aujourd'hui.
Voilà, parce que je le rappelle, dans Rencontre, je viens à la rencontre de l'invité dans le lieu qu'il a choisi. C'est ici que tu t'entraînes ?
Non, pas du tout.
Tu nous expliqueras tout à l'heure, mais avant de nous expliquer où tu t'entraînes, on va d'abord essayer de comprendre c'est quoi le plum foot ? Est-ce que tu peux nous présenter ce sport ?
Oui, alors, le plum foot est un sport d'origine asiatique, en particulier du Vietnam, plus particulièrement au Vietnam, et qu'on peut résumer rapidement comme étant du badminton avec les pieds, un croisement du badminton, dont on utilise le terrain, du volleyball, parce qu'il s'agit de construire une attaque un certain nombre de touches, et du football parce qu'on utilise les pieds.
Donc il y a trois sports mélangés en un seul sport.
Ouais, ouais, c'est ça à peu près.
C'est un peu compliqué.
Non, pas.
Dit comme ça, ça a l'air super simple.
Il y a plein de gens qui débutent chaque année, qui découvrent. Non, au contraire, il faut venir essayer.
Et alors, il vient d'où ce sport ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à se dire on va prendre un peu du foot, on va prendre un peu du volley, un peu du bad, un peu de partout ?
Ah, c'est... En Asie, enfin, au Vietnam, il faut imaginer qu'en fait, ça fait vraiment des siècles qu'il y a des jeux de rue avec le fait de taper un volant, un petit objet avec une plume dedans, au pied, dans les parcs et autres. C'est que dans le courant du XXe siècle, par contre, qu'ils vont penser à structurer ça avec des règles sportives, un filet de badminton, des matchs, des points, etc. Mais c'est vraiment un sport qu'on peut retrouver partout, un jeu de rue qu'on peut retrouver partout dans les parcs là-bas.
Et toi, tu l'as découvert au Vietnam, ce sport ?
Non, pas du tout. Moi, c'est en 2003, si je ne m'abuse, je suis tombé sur un article dans un journal qui s'appelait Urban et qui n'existe plus. C'était un journal qui expliquait un peu les sorties qu'on pouvait faire éventuellement à Paris, ce genre de choses. Et je suis tombé sur l'article. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. C'était vraiment les tout premiers joueurs qui jouaient depuis 6 mois, 1 an, qui avaient été interviewés. Je suis allé voir et je suis tombé dedans.
Et tu es tombé amoureux de ce sport ?
Ouais, le sport, mais tout ce qui va autour, en fait.
Tout ce qui va autour, c'est-à-dire ?
Bon, c'est une petite communauté. Grâce à ce sport, en fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai des amis partout en Europe, en Chine, au Vietnam et autres. Donc, il y a le côté sport, il y a l'organisation aussi. Participer à développer, à organiser un sport nouveau, naissant en France, quelque chose de plus. En plus de la pratique et du plaisir de suer sur un terrain.
Et alors, c'est quoi les règles du plum foot ?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a trois disciplines au plum foot. On peut jouer en triple, 3 contre 3, en double, 2 contre 2, et en simple.
1 contre 1.
1 contre 1. Donc les règles sont assez simples. Il faut que le volant touche le sol dans la partie du terrain adverse en ayant passé au-dessus du filet.
Ok.
Donc voilà, là on retrouve vraiment tous les grands classiques des sports de filet, volleyball, tennis, ping-pong. Il faut que ça touche. Le point est fini quand le volant a touché le sol. Sauf que une équipe a le droit à 4 touches et un joueur peut la toucher 2 fois consécutivement. Mais tout ça au pied. Donc idéalement, on construit une attaque qui doit, dans un monde idéal, finir par un smash qui se fait avec les pieds au-dessus du filet de badminton.
Mais un filet de badminton, c'est où ?
Un mètre soixante. Enfin, alors pour le coup, on est même un poil plus haut que le filet de badminton officiellement. Au plus de foot, c'est 1m60 pour les hommes, 1m50 pour les femmes.
1m60, je fais 1m68, c'est-à-dire que c'est 8 cm en dessous de ma taille. C'est grand, 1m60.
Oui, au début. à la fin aussi, encore un peu, mais finalement, on est nombreux à y arriver. Hein.
Donc, avec le pied, on envoie le volant, enfin la plume, c'est ça ? C'est plus une plume ?
Oui, c'est ça. On dit un volant ou une plume, tout à fait.
De l'autre côté ? Et une fois que c'est de l'autre côté, on marque des points, on se renvoie comme on peut faire au badminton. Et il y a un certain nombre de points à obtenir du coup pour gagner.
Il faut gagner 2 sets de 21 points. Voilà, avec 2 points d'écart.
Donc 2 sets de 21 points, donc on joue avec une petite mi-temps au milieu, quoi, un truc un peu...
Non, il n'y a pas de... Enfin, il y a une mini-pause entre deux sets. On a le droit à des temps morts, à deux temps morts. Chaque équipe a le droit à deux temps morts de 30 secondes sur un set. Et c'est à peu près tout comme pause.
Donc il y a deux sets de 21 points. Tu dirais que c'est quoi la... comment on fait pour être fort au plus de foot? C'est quoi les atouts pour pouvoir réussir dans ce sport?
Bon, alors la souplesse, comme tu l'as deviné tout à l'heure, est un atout, en tout cas quand on profite de l'attaquant. Mais c'est surtout un sport qui vient beaucoup solliciter la concentration, qui presque me met parfois dans un état méditatif. Il y a des matchs où j'arrive à atteindre cette espèce de flow, et d'autres non. Et en fait, ça peut aller très vite, les enchaînements de points, et il suffit d'être un peu décentré, un peu déconcentré, et en fait, on donne 3, 4, 5 points d'affilée à l'adversaire. Et on... Donc, il y a vraiment quelque chose à choper du côté relâchement, concentration, relâchement. Donc, avant la technique, enfin, la technique est importante, mais finalement, c'est souvent ce point-là qui fait la différence dans le match.
D'accord, ce côté concentration. Et après, on y rajoute la flexibilité, enfin, l'agilité des pieds.
Souplesse, vivacité, sens tactique.
Il y a un vrai sens tactique, un peu comme aux échecs, on a un sens un peu tactique.
Bon, j'aime pas comparer aux échecs, mais il y a...
J'ai pris le plus haut, là.
Il y a une façon de travailler l'adversaire, d'aller chercher les points faibles, en particulier en simple. Il y a vraiment... avoir des bons schémas de jeu. Peut-être même un certain sens du vice.
D'accord. Un certain sens du vice. D'accord, donc tu vas essayer d'aller attaquer tes adversaires là où ça... Ils ont des défauts finalement.
Ouais.
Et tu vas pousser jusqu'au bout, quoi.
Ouais, alors après, moi, je commence à aller voir des vieilles jambes, alors faut bien trouver ce qu'on trouve.
C'est un sport, du coup, avec des... Toi, t'as été champion de France.
Il y a quelques temps, mais oui. À une époque, on n'était pas encore très nombreux.
Avec donc des championnats, il y a un championnat du monde, il y a...
Ouais, il y a plein de compétitions. Alors, en France, on a un championnat de France mais qui est étalé sur la saison. Donc en fait, il y a tout de suite l'échelon national. En fait, actuellement, tous les joueurs, quand ils commencent pour payer sur le club foot, jouent à l'échelon national.
Ah oui, il n'y a pas d'échelon régional, départemental.
On n'est pas encore assez nombreux pour les mettre en place.
Ça représente quoi le nombre de personnes qui font du club foot en France?
Il y a environ 100-120 personnes inscrites dans des clubs.
Ouais.
Après, il y a des pratiquants de loisirs, donc c'est compliqué d'estimer, en particulier du côté des communautés asiatiques. Il y en a pas mal qui jouent en freestyle, mais sans le filet. Mais voilà, il faut vraiment retenir 120 en club.
120 en club, donc c'est pas si nombreux.
Ah ouais, c'est encore aussi nombreux que ce qu'on souhaiterait.
C'est moins nombreux que le foot, si on devait comparer avec un sport vraiment où il y a beaucoup d'adhérents. Donc, championnat de France, championnat d'Europe.
Alors, championnat de France, en fait, on a quatre tournois qui permettent de se qualifier. Il y a un tournoi final qui nomme le championnat de France. On a aussi un interclub, donc un championnat par équipe. Et on accueille aussi une compétition internationale par année, ce qu'on appelle l'Open de France, où on fait venir des joueurs du monde entier sur un format aussi de championnat par équipe. À ça s'ajoutent différents Open aussi dans les autres pays et surtout championnat d'Europe tous les deux ans et Coupe du Monde tous les deux ans.
D'accord. C'est jamais la même année?
C'est jamais la même année.
Donc là, cette année, on est dans l'année du championnat.
Alors là, la Coupe du Monde aura lieu courant novembre.
D'accord. Tu vas y aller? Tu vas aller voir?
Et non, malheureusement.
Elle est où?
Elle est en Chine et j'ai fait le choix de limiter l'usage de l'avion. Et puis de toute façon, je suis trop vieux maintenant.
Pour participer à des compétitions?
Alors, compétition, oui, à l'échelon national. Par contre, elle sélectionne l'équipe de France. Je titille les joueurs qui y sont, mais il y a plein de jeunes qui poussent. Donc, il faut leur laisser la place. Et puis, ils la méritent.
Et pas encore au JO, du coup, cette compétition?
Et non, il y a encore trop peu de pays qui le pratiquent pour être ne serait-ce que candidat au JO. On a failli être discipline de démonstration à Pékin en 2008, mais ça ne s'est pas fait.
Ah oui, ça aurait été l'occasion en plus.
Ah, ça aurait été super, j'étais prime de ma jeunesse à l'époque.
T'aurais été au JO?
J'aurais kiffé. Mais bon, j'ai fait les Coupes du Monde en Chine et au Vietnam.
T'as fait des Coupes du Monde?
Ah oui, j'ai fait 4 Coupes du Monde de mémoire.
Ah, quand même.
J'étais en équipe de France.
Je découvre. Donc, champion de France et 4 participations à des Coupes du Monde.
Ouais, tout à fait. Plus une cinquième participation en tant que sélectionneur de l'équipe de France.
Sélectionneur de l'équipe de France. Je redécouvre mon invité en discutant. Ces quatre participations, elles n'ont pas porté premier.
Non.
Mais est-ce qu'elles t'ont permis d'arriver quand même à un assez bon classement? Sachant que dernier en partant de la fin, ça fait premier.
Non, je pense que le meilleur classement qu'on ait eu à cette époque, c'était en quart de finale en équipe. Le niveau est quand même très très relevé avec les équipes asiatiques. Là, actuellement, notre meilleure performance en France, c'était en 2019, la Coupe du Monde qu'on a accueillie chez nous. Ouais. Et on a une joueuse qui a fait une troisième place, ce qui est un podium, seul podium, mais qui était assez exceptionnel comme résultat.
Et tu étais bien sûr en 2019.
Hein. Et j'étais sélectionneur.
T'étais sélectionneur pour l'équipe de France de plume foot.
C'est ça.
Tout ça, je le précise, en amateur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas payé pour...
c'est du bénévolat.
C'est du bénévolat.
Bénévolat passionnel complet.
tu disais, le plume foot, c'est un sport qui n'est pas... C'est un sport mixte ou...
Oui, actuellement, on a... Jusqu'ici, quasiment toutes nos compétitions ont été mixtes en France. Là, on est en train de mettre en place seulement en simple des tableaux séparés. Et encore seulement que s'il y a un nombre suffisant de filles inscrites. Mais en double, en triple, on est sur des formats mixtes. Et il faut savoir qu'en compétition officielle, donc Coupe du Monde par exemple, il y a sept épreuves. Il y a simple, double, triple, hommes et femmes. Et il y a le double mix comme épreuve officielle aussi.
D'accord. Donc en compétition mondiale, c'est plutôt séparé. Par contre, en France, on garde... Une mixité due au fait peut-être au nombre d'inscrits aussi.
Alors pour l'instant, due au nombre d'inscrits. Moi je trouve intéressant la mixité. C'est un sport pour lequel ce n'est pas forcément problématique. Mais à voir si ça se maintiendra avec le développement.
C'est un sport en développement, le plume foot.
Alors c'est un sport en développement, ne serait-ce que parce que depuis 2 ans, on est officiellement discipline associée du badminton. Donc on est en train de rejoindre la fédération de badminton. Donc en fait, ça va être aussi un vecteur de multiplication, de développement, de connaissances. Donc on pense que dans les prochaines années, il y aura de plus en plus de clubs mixtes, badminton et plume foot.
Intéressant. On va continuer à cette discussion, mais avant, François va marquer une petite pause musicale et tu as choisi pour nous une musique que je te laisse nous présenter.
Alors, j'ai choisi une musique qui est tirée du film Captain Fantastic avec Viggo Mortensen et donc est une reprise folk de Sweet Child O' Mine, qui est initialement de Guns N' Roses. Et là, ça sonne bien différemment et c'est très chouette.
Eh bien, on écoute ça tout de suite et on revient juste après de Rencontre sur Radio G.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood. Memories where everything was as fresh as the bright blue sky.
rencontre sur Radio G 101.5 FM.
De retour donc en compagnie de François pour parler du plume foot et on vient d'écouter Sweet Child O' Mine, donc de la musique de Captain Fantastic, une reprise de Guns N' Roses. Alors François, au tout début de cet entretien, tu nous racontais comment tu as connu le plume foot, donc en 2003. T'es sur Paris, une rencontre au hasard, tu découvres ce sport, t'en tombes amoureux. Qu'est-ce qui te plaît ?
C'est une vaste question. ce qui m'a plu pour commencer, alors je pense que c'est déjà... Il y a eu un petit temps d'appréhension, donc il y a une petite notion de défi au début. Les deux premiers mois étaient un peu ingrats, mais vraiment l'envie de passer le cap techniquement, de réussir à toucher enfin cet objet... d'enchaîner une touche ou deux correcte et autres. Et en fait, il y a assez vite un sentiment de marge de progression, en fait, qui est assez valorisant, et la plupart des nouveaux que j'ai croisés depuis sur les 20 dernières années, donc j'ai repéré ça. En fait, vraiment le plaisir de progresser constamment, d'avoir un peu de défi et autres. Après, bah, il y a cette petite communauté qui est extrêmement sympathique parce qu'il y a, en fait, dans une compétition, il y a des joueurs très confirmés comme des complets débutants. Il y a vraiment une espèce de parrainage officieux. Il y a de l'accueil, veillance. Donc à la fois, tout le monde vient là pour gagner. Il y a vraiment un esprit de compétition réel, mais en fait le jeu ne dépasse l'enjeu ne dépasse jamais le jeu et je suis un joueur,
j'aime gagner
jeux de société, j'aime gagner, j'aime me dépasser et autres, mais en fait il y a du fair play constamment, il y a de l'accueil, on s'adapte au nouveau, les anciens donnent toujours des conseils même en plein match, donc il y a tout un ensemble. Et puis après, comme je disais, il y a ce côté un peu sport qui me met dans un état quasi méditatif. Il y a une dimension assez addictive, en fait, dans certains tournois où, en fait, on touche une espèce d'état de pleine conscience, sensiblement d'être complètement là. Et le match après, on n'avait que de retrouver ça. Et puis, genre, généralement, comme c'est sur les derniers matchs qui sont les plus serrés, les plus tendus, dernier match du week-end de compétition, j'ai envie de continuer alors que j'ai les jambes qui ne me portent plus. Et je reviens avec une banane large comme tout, avec des crampes de partout et qui se déclenchent dans tous les sens. Voilà, donc peut-être qu'il faut une part de masochisme.
Et ce côté, cet état méditatif, tu l'as ressenti dès le départ quand tu as commencé ou est-ce que tu l'as senti un peu plus tard ?
Non, c'est vraiment en compétition. Donc moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de compétition en France. On allait une fois par an en compétition internationale ou sur un Open en Hongrie. Et c'est vraiment quand, après 3-4 ans de pratique, j'ai vécu une année en Allemagne, où j'ai fait tournoi en Allemagne, où j'ai commencé à faire des compétitions avec beaucoup de joueurs de niveau proche. Donc c'est là que j'ai commencé à atteindre ça, en fait, en rencontrant des joueurs qui obligent au dépassement.
D'accord. Ce que tu n'avais pas encore rencontré en France?
On n'avait pas de tournoi, donc.
À l'époque, il n'y avait pas encore de tournoi.
En fait, jouer en tournoi qui amène degré de concentration, c'est pas de rigueur, c'est pas le bon terme, mais en fait, il faut être pleinement là et jouer en entraînement pour faire entrer la technique, c'est pas du tout la même chose au niveau psychique.
Donc, ça t'a permis de te dépasser, ça t'a permis de découvrir cet état méditatif. Ouais. Et en France, donc, t'as aidé à développer un peu ce côté tournoi, ce côté compétition qu'il n'y avait pas ?
Oui, complètement. Bah, on était une petite poignée de joueurs quand j'ai commencé. Et on a essayé de structurer progressivement le sport et en centrant la question sur le plaisir de jeu, sur la communauté joueur. Donc quand on fait des compétitions, par exemple, que ça soit le dernier ou le premier, tout le monde a le même nombre de matchs. On se déplace, on traverse la France entière pour les week-ends et il faut que tout le monde ait son compte de match. Donc en fait, toute notre structuration s'est faite en fonction que chacun doit y trouver son compte.
Et que chacun soit bien, à sa place, etc.
C'est ça.
Et donc, tu as été entraîneur de l'équipe de France.
Oui.
Après y avoir participé.
Oui.
Comment t'es arrivé entraîneur ? Comment est-ce que tu as passé la barrière de te dire « Je joue, je suis joueur, maintenant je vais entraîner ».
Il y a plusieurs choses. Déjà, on a eu un sectionneur, Cédric, qui était... Alors, au début, il faut imaginer qu'en fait, il y avait... Les joueurs qui allaient en équipe de France, c'était ceux qui étaient disponibles, on autogérait qui allait participer à quoi. On a fait quand même des compétitions internationales sans entraîneur pendant très très longtemps. Après, on a eu un premier sélectionneur, si je ne m'abuse, à partir de 2012 à 2019, donc Cédric, qui était un des premiers joueurs, mais qui, après un déménagement, n'était plus en club, donc en fait, elle a mis son énergie à la disposition un peu de ça. Et puis, commencer à avoir plus de joueurs, plus de niveaux, tout le monde voulait jouer les mêmes épreuves, donc il fallait quand même quelqu'un qui tranche un peu, donc ça tombait fort à propos qu'il ait cette disponibilité-là. Puis Cédric, était moins disponible, prendre la distance. Moi, j'avais 38 ans à ce moment-là. Clairement, il y avait toute une nouvelle génération qui poussait dans une phase de transmission. Et puis, de toute façon, je voulais laisser de la place aux jeunes. Ça avait du sens. Hein. Bon. Après, si en compétition nationale, je peux leur repasser devant, je m'en prive pas. C'est quand même de plus en plus rare, disons-le.
Et donc, aujourd'hui, tu entraînes plus que tu ne joues finalement en compétition.
Je continue à avoir la double casquette.
Tu continues, oui.
Je fais encore les compétitions à l'échelon national avec beaucoup d'envie. Par contre, je suis arrivé sur la région d'Angers il y a 4 ans. Et donc, il y a un club maintenant au Poncé. Il y a une session de plume foot au sein d'un club de badminton au Poncé. Et donc, je suis entraîneur. Je fais émerger les jeunes joueurs du coin. Quoi.
Donc, c'est justement là où je voulais en venir. Le club de plume foot au Poncé, donc est hébergé au sein du club de badminton.
Il y a un club de badminton et il y a une session plume foot au sein de l'association.
Et donc toi, tu es en charge de cette session plume foot.
Tout à fait. Oui.
C'est toi qui entraîne les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses.
Alors, on n'a pas encore de joueuses, malheureusement, pour le club, mais j'espère que ça viendra.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditrices, aller chez le plume foot.
Oui, on vous attend.
Et alors, c'est quand qu'on peut aller venir essayer?
C'est là, on a un entraînement par semaine le mardi soir, donc de 19h30 jusqu'à 22h environ. Et après, il y a possibilité de participer à des créneaux libres qui sont ouverts au badminton à d'autres moments de la semaine. Mais voilà, vraiment, l'essentiel est centré sur ce mardi soir.
Sur ce mardi soir. Et après, il y a possibilité d'aller sur les compétitions françaises.
Oui, on peut, après, les compétitions sont ouvertes à toute personne, pratiquement plus de foot dans un club.
Et est-ce que le fait que le plume foot soit une session du club de badminton, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure du rapprochement, là, le plume foot et badminton en France?
Alors, ça arrivait un peu près dans le même mouvement. Moi, c'était un peu fortuit. Il y avait vraiment que je venais d'arriver dans la région, je venais de déménager à Muret-Aignan, et la présidente du club de badminton avait envie de créer une session plume foot. Elle venait d'entendre parler il n'y a pas longtemps, et je venais d'être là. Donc, elle a contacté France Plume Foot, donc l'association qui coordonne un peu et qui promeut le plume foot en France. Et France Plume Foot a dit, bon, on a mieux que vous envoyez quelqu'un pour une démo. On a un ancien là qui vient d'emménager à côté de chez vous.
Donc, il peut venir.
Et c'était parfait.
Et tu t'es retrouvé à diriger un peu cette session plume foot?
Oui, s'il n'y avait pas eu ça, moi, j'avais l'ambition de créer une association, j'aurais créé quelque chose. Mais alors là.
C'était tout bénef.
Tout bénef, exactement.
T'as la salle, t'as les locaux. Il te manquait plus que les joueurs.
C'est ça.
Et ça attire du monde. T'as réussi à trouver des joueurs, des joueuses, non, pas encore, mais des joueurs qui viennent.
Alors, pour l'instant, on est 5 joueurs, donc ça reste assez confidentiel. Ouais. On a eu des joueurs qui ont essayé, mais qui ne sont pas restés, essentiellement parce que la vie de famille, c'était des darons, et donc c'est pas facile de libérer du temps. Par contre, ils restent dans la galaxie, on les croise souvent, il retape la plume avec plaisir de temps en temps. Par contre, on fait beaucoup de découvertes dans des écoles, à Muret-Aignan, dans une école Montessori sur Angers, on a fait des initiations, au Vital Sport de Décathlon, on le fait régulièrement. On a déjà fait de la découverte au Prénat Foyer aussi. Et donc, généralement, c'est très plaisant, les personnes sont très contentes d'essayer de découvrir autres. Le pas d'inscription est plus compliqué et surtout le pas d'inscription pour les enfants, pour les jeunes, est plus compliqué parce qu'il faudrait qu'il y ait tout un groupe qui naisse d'un coup plutôt que d'avoir un ou deux jeunes. S'il y avait un ou deux enfants de 10 ans qui venaient, je pense qu'on ne répondrait pas forcément à la dimension éducation populaire qu'amène le sport. Donc il faudrait vraiment réussir à avoir un groupe de 5-6 jeunes qui arrivent ensemble.
Ouais, pour pouvoir faire un groupe et peut-être un autre créneau.
C'est ça, oui. Ouais, faire un créneau en enfant, ça serait vraiment super.
Et ça existe dans d'autres clubs de plume foot?
Oui, il y a quelques clubs de plume foot qui ont ces créneaux-là.
Mais là, pour l'instant, Angers, ça reste un club adulte. En tout cas, il n'y a pas encore la demande enfant. Enfin, on pensait
pas encore, mais la porte est ouverte.
Tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans le plume foot, mais qui hésite? Par exemple, ma personne, qui pourrait hésiter à venir essayer.
La première chose, c'est il faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut taper une plume avec le pied. Et, voilà. En fait, malheureusement... il y a beaucoup de personnes qui restent un peu traumatisées par le foot et le rapport aux pieds. Il y a des gens qui font « Ah non, les pieds, j'y arrive pas, je peux pas, ça a l'air difficile ». Donc en fait, Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parce que le sport peut renvoyer quelque chose d'un peu compliqué. Et les personnes qui osent s'y essayer, en fait, ont du plaisir tout de suite. Après, le plaisir de jeu, il faut un mois, deux mois, où il faut accepter qu'on ne touche pas toujours la plume. Mais passer, c'est un ou deux mois, bah, généralement, après, tout le monde s'amuse.
Donc, il faut venir essayer pendant un mois, deux mois, et puis voir si on finit par s'amuser. A priori, on finit par s'amuser. Au troisième mois, c'est sûr, on s'éclate.
Tous les joueurs qui se sont inscrits s'amusent avant le troisième mois. Ah. Par contre, il peut y avoir une petite frustration à ne pas y arriver, mais ça passe vite.
J'avais une question qui me vient comme ça, parce qu'on, je sais plus, on n'a pas parlé, je crois. Mais en fait, tu touches avec le pied, mais du coup, la main et la tête, c'est interdit.
Alors, la tête est autorisée pour faire un contrôle ou une passe, mais elle ne peut pas servir à marquer un point. La main et tout le bras est rigoureusement interdit. Et on peut utiliser buste, genou, mais la zone de frappe principale, prioritaire, privilégiée, c'est le pied.
Oui, ce qui demande quand même un certain niveau.
Il faut juste essayer.
Ok. Donc, c'est le mardi soir, au Ponce, pour venir essayer.
Dans la salle Athlétis.
Dans la salle Athlétis, 19h30, 22h à peu près.
C'est ça.
C'est ça. Avec en entraîneur un ancien champion de France et 4 participations au championnat du monde.
C'est ça.
C'est quand même pas mal.
C'est pas mal. À noter aussi qu'en fait, on est en train de mettre en place une promotion sur les réseaux sociaux sous le hashtag PubFoot Angers.
D'accord. Donc, pour pouvoir un petit peu se faire connaître aussi.
Instagram, TikTok, Facebook.
Ok, ben on va relayer tout ça, non ? Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nicolas.
D'être venu aujourd'hui nous parler de PlumFoot. Donc, je le disais, on se retrouve le mardi soir dans le club de PlumFoot des Ponce, sur la session PlumFoot, au sein du club de badminton.
Au sein de la SPC de badminton.
À la salle Athlétis.
À la salle.
19h30, 22h. Venir essayer. Voilà. Et avec le hashtag PlumFoot, qu'on relaie massivement sur les réseaux sociaux. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours sur Radio G. Ce sera le jeudi 17 octobre à 13h. Et n'hésitez pas à partager le podcast de cette émission via Radio G, via radio-g.fr ou Spotify. Tout de suite, c'est la playlist du 101.5 FM, Topette.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.